Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce temps de carême, il y a comme une petite pause où notre Seigneur Jésus-Christ, je veux dire pause dans la mortification. Bon, chaque dimanche, bien évidemment, n'est pas un jour de mortification parce que le dimanche représente et nous rappelle la résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ, dont c'est festif chaque dimanche, mais malgré tout, chaque dimanche de carême, et on parle de la passion, de la croix, de la mortification. Et bien sûr, dans ce dimanche, il n'est pas question de faire aussi une impasse sur la passion, car dans cette transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur parle bien à Moïse et Élie de l'excès des souffrances qu'il subirait, qu'il souffrirait, qu'il offrirait à Jérusalem. Ce n'est pas dans l'Évangile selon saint Matthieu, mais c'est dans saint Luc, où notre Seigneur Jésus-Christ, il est révélé en saint Luc, que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé précisément de la passion à Moïse et Élie. Et c'est tout à fait cohérent. Ces deux grands personnages de l'Ancien Testament, ces colonnes, Moïse, la loi, Élie, les prophètes, donc ils représentent, ils résument en leur personne ces deux monuments, la loi, les commandements, et les prophètes, les grands prophètes et les petits prophètes, donc se résumer en Moïse et Élie. Donc les deux personnages clés de l'Ancien Testament viennent à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus-Christ leur révèle précisément la passion qu'il va souffrir pour nos âmes. Et nous comprenons bien que tout l'Ancien Testament, comme le Nouveau, l'un monte vers la croix, l'autre en descend, et les grâces du Nouveau Testament sont la conséquence de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ leur parle précisément de la croix, de la souffrance. Donc vous voyez, même si c'est une petite parenthèse sur la pénitence du carême, tout de même, il est bien question de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est une grande joie, puisque Jésus-Christ est transfiguré. C'est un cas exceptionnel. Et où est le miracle? Est-ce que dans ces 33 ans de la vie de Jésus-Christ, le miracle est aujourd'hui? Non, c'est bien le contraire. Le miracle, c'est dans le fait qu'il cache sa divinité. Donc vraiment, la majeure partie du temps de la vie de Jésus-Christ, il est là le miracle. C'est qu'il cache totalement sa divinité, à part bien sûr les miracles qu'il accomplit. Mais ce sont des faits ponctuels dans sa vie. Mais vraiment aujourd'hui, c'est l'état normal de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est transfiguré. Et les apôtres sont incapables de voir notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, Jacques et Jean sont présents. Ils voient bien Moïse et Élie. Et Pierre est enthousiaste. Il parle au nom des deux autres, comme très souvent dans l'Évangile. C'est Pierre qui parle. À quelques reprises, bien sûr, ce sont des autres apôtres qui parlent. Mais là, c'est Pierre qui parle. Il nous est bon, Seigneur, d'être ici. Si vous le voulez. Donc on voit la délicatesse. Si vous voulez. Tout est soumis au bon Dieu. Rien ne lui échappe. Si vous voulez, il demande la permission à notre Seigneur Jésus-Christ. Dressons trois tentes. Et Pierre s'oublie lui-même. Vous voyez la délicatesse de cette âme. Dressons trois tentes. Une pour vous, à tout Seigneur, tout honneur. Une pour Moïse, une pour Élie. Et que vont-ils faire les trois apôtres à ce moment-là? Il n'y aura pas de tente. Eh bien, ils seront à l'extérieur. Ils ne pensent pas à eux. Quelle leçon aussi, bien cher frère, pour nous, qui souvent, voire trop souvent, pensons tant à nous et peu au prochain. Bien sûr, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voyons dans le prochain notre Seigneur Jésus-Christ. Le prochain qui peut avoir la grâce sanctifiante. Hélas, parfois qu'il ne l'a pas. Mais il a une âme. Prions pour le prochain. Prions pour ces âmes qui ont notre Seigneur Jésus-Christ par la grâce sanctifiante et tant d'âmes qu'ils n'ont pas. mais qui sont amenés à aimer, à connaître, à aimer notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons délicats avec toutes ces âmes. Ça découle de la façon dont Saint-Pierre parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'oublie lui-même. La charité est oublieuse d'elle-même. Elle s'efface au profit de l'autre pour voir notre Seigneur Jésus-Christ présent ou potentiellement présent dans cette âme. Car Jésus veut sauver toutes les âmes, sans exception. Donc, Saint-Pierre est très délicat, plein de condescendance, plein d'amour, bien sûr, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dressons trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Et tandis qu'il disait ces choses-là, une nuée couvre notre Seigneur, Moïse, Élie et eux-mêmes. Et les vêtements de notre Seigneur Jésus-Christ sont extraordinairement beaux. Son visage brillant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la neige, ce sont des expressions pour rendre un peu compte de ce qui s'est passé. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Il tombe à la renverse. Notre Seigneur Jésus-Christ est transfiguré. C'est l'état normal de Jésus-Christ. Et les apôtres ne peuvent pas voir notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont vu juste avant sa transfiguration. Saint Paul, plus tard, dira un peu la même chose. Mais Saint Paul est monté dans les cieux. Et quand il redescend sur terre, après l'extase dont il a été bénéficiaire, il bafouille en disant « Je connais un homme il y a 14 ans, et sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. A vu, c'est de lui dont il parle, nous savons, a vu des choses qu'il ne peut pas dire, parce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. » Et donc saint Paul ne peut pas décrire la divinité. C'est impossible. On ne peut pas voir Dieu ici-bas et vivre encore. On meurt. Ce sera la béatitude. Quand l'enveloppe de notre corps éclatera et que nous verrons enfin Dieu face à face. La foi sera transformée. Elle ne disparaîtra pas. Elle sera transformée dans la vision béatifique, pour aboutir à l'amour de Dieu sans mesure et sans terme, puisque Dieu est infini et l'éternité, c'est l'infini, c'est pour toujours. Donc c'est une grande réalité que cette transfiguration. Eh bien, chers frères, il nous faut demander au bon Dieu d'être transfiguré, non pas extérieurement. Quoique, Mgr Lefebvre, quand il nous donnait des conférences spirituelles au séminaire, nous rapportait ce qu'il avait vu en Afrique. Il est resté 30 ans missionnaire, au Gabon, puis au Sénégal, à Dakar. Et il disait, nous voyons, nous, pères, catholiques, missionnaires, dans les villages, quand nous traversions un village, nous savions dès l'entrée dans le village qui était catholique et qui ne l'était pas. Ça se voyait sur les comportements, sur les visages, sur les façons de faire. On se rendait compte, un visage de baptisé et un visage de non-baptisé. C'est vrai. Donc, il y a une espèce de transformation. Transfiguration est un mot peut-être exagéré, mais transformation. Nous-mêmes, dit bien, chers frères, nous sommes transformés intérieurement par la grâce qui nous habite. On est habité, on est possédé par la grâce du bon Dieu. Je vis, dit saint Paul, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Avons-nous un comportement de baptisé? C'est la grande question qu'il nous faut poser durant ce carême. Car le carême est une époque de transformation intérieure. Extérieure, ça c'est accessoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un visage dur vis-à-vis des autres. Ça, on peut transformer ça aussi. Ça ne coûte pas cher. Mais quelle joie, quand on voit un visage éclairé par quelque chose, plutôt qu'un visage de je ne sais pas quoi. Vous comprenez ce que je veux dire. Une tête d'enterrement. Et qui déprime tous ceux qui peuvent côtoyer. Donc, mieux vaut pour ces personnes être solitaires dans une thébaïde, comme ça, ils font mal à personne. Bref, mais c'est important quand même. C'est important. La charité doit rebondir à l'extérieur de nous-mêmes. C'est tellement important, tellement important. Il y a des fruits de la charité. 12 fruits de l'Esprit Saint, pardon. La charité, la paix, la joie, la paix. Un visage paisible, un visage qui est transformé et qui transparaît, qui fait transparaître cette joie extérieure. Ce n'est pas une joie exubérante, comme le monde la connaît. Ce n'est pas vraiment la joie, c'est du plaisir, mais ce n'est pas la même chose. La joie spirituelle, la paix aussi. La paix, dit saint Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. Et les apôtres, à sa transfiguration, ont été dans une grande paix, une grande joie. Ils sont avec le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dira, bien évidemment, « Ne parlez pas de ce que vous avez vu, aperçu, parce que c'est un mystère que la croix. » Et les apôtres le diront plus tard, quand le Fils de l'homme, dit-il, sera ressuscité des morts. Pour l'instant, gardez ce secret pour vous. Comme les grâces qu'on reçoit, il n'est pas bon, dit la Sainte Écriture, de déverser, de dire à tout le monde les grâces qu'on a reçues. C'est un secret royal, un cadeau du bon Dieu. Il ne faut pas le divulguer. Il y a des grandes grâces que le bon Dieu peut nous donner, et bien il faut les conserver, les garder en soi, comme la Vierge Marie faisait à Nazareth, d'abord à Bethléem, avec les bergers qui sont venus. Elle gardait ces choses, puis ensuite à Nazareth, elle conserve ces choses, elle les médite, elle ne les dit pas à tout le monde, elle ne les divulgue pas, parce que c'est un secret personnel. Les grandes grâces du bon Dieu, il faut les conserver en son âme, en son cœur, et les méditer. Et remercier le bon Dieu beaucoup des grâces reçues. N'oublions jamais, bien cher frère, de remercier le bon Dieu des bienfaits dont il nous gratifie. Soyons reconnaissants des grâces reçues. Comme c'est important, comme c'est important. Nous pourrions dire encore beaucoup de choses, bien évidemment, sur cette transfiguration. L'essentiel, me semble-t-il, pour nous, c'est la grâce qu'ont reçue les apôtres. Après la Pentecôte, ils sont très courageux. Bien sûr, la croix sera pour eux tous, comme pour nous, quelque chose d'effroyable. Ils vont tous quitter, abandonner. Pierre va renier. Mais Pierre va garder de cette passion une grande qualité, une grande vertu, c'est celle de l'humilité. Lui qui a aperçu notre Seigneur Jésus-Christ à sa transfiguration, vu mais aperçu, comme on l'a expliqué, il va défaillir. Mais plus tard, il dira à son fidèle secrétaire, Marc, l'évangéliste, Marc qui écrit l'évangile, c'est celle de Pierre, bien évidemment. L'évangile de Pierre, celui de Pierre, mais c'est saint Marc qui écrit. Eh bien, saint Marc donne des détails de la passion. Donc saint Pierre a dû lui dire, n'oublie pas de dire ceci, ceci et cela. N'occulte pas mes fautes par humilité. Non pas par fanfaronnant, bon, pour être fanfaron, pas du tout. Absolument pas, mais par humilité. Comme saint Paul aussi. Comme saint Paul, qui est un grand persécuteur de Dieu. Il tient à le dire. Vous voyez, deux grands apôtres qui ont été bien infidèles. Et après leur conversion, ils veulent magnifier le bon Dieu en disant « Ce n'est pas grâce à moi que je suis ce que je suis. » Mais le bon Dieu était plein de miséricorde. Et ils publient leur fragilité. Quelle humilité! Quelle leçon pour nous! Sachons aussi nous humilier. Quand nous défaillons, quand nous faisons des fautes, quand nous manquons de délicatesse, les uns vis-à-vis des autres. Soyons délicats, soyons pleins d'humilité. L'humilité nous grandit. Nous grandit. Parce qu'on s'est abaissé réellement. Réellement, c'est pas de l'hypocrisie. Eh bien, celui qui s'humilie est grandi. Notre-Dame le dit parfaitement dans son Magnificat. Un petit évangile raccourci, le Magnificat. Les cœurs humbles, et le bon Dieu les exalte, les grandit. Les cœurs orgueilleux, pleins d'eux-mêmes, Dieu les rabaisse et les rabaissera. Mes chers frères, suivons Notre-Dame. Notre-Dame n'avait pas besoin d'être présente à la transfiguration. C'est la vie publique. Elle est présente à quelques reprises, mais elle n'est pas présente. Notre-Dame n'a pas besoin de ce fait extraordinaire pour croire en Dieu. Elle croit en Dieu. Elle a la charité. Elle est pleine de Dieu. Donc ce fait, pour elle, n'était pas nécessaire. Je veux dire, sa présence n'était pas nécessaire. Elle est transfigurée dès le départ. C'est l'Immaculée Conception. Et à ceux qui côtoient Notre-Dame, tôt ou tard, ils sont transfigurés. Tôt ou tard. Saint Joseph a été transfiguré par Notre-Dame. Il a vécu 30 ans avec elle. Nous commençons aujourd'hui le mois de mars. Prions Saint Joseph, mes chers frères. Prions Saint Joseph. Il n'était pas la transfiguration également. Il était décédé avant. Il n'est pas besoin de ce fait de transfiguration. Il a côtoyé, comme Notre-Dame, notre Seigneur Jésus-Christ, pendant 30 ans. 30 ans de vie cachée. Aux yeux du monde, 30 ans inutiles, stériles. Mais aux yeux de Dieu, 30 années de béatitude. De béatitude. De bonheur indicible. Trois cœurs qui se sont complus les uns avec les autres. Il a été beaucoup plus agréable, d'un point de vue humain et surtout divin et spirituel, de vivre pour ce trio admirable, Jésus, Marie, Joseph, ensemble durant 30 ans, plutôt que Jésus 3 ans avec les apôtres, les disciples et tous ceux qui le côtoyaient, parce que c'était des pécheurs. C'est vrai. Quelle torture, quelle douleur pour notre Seigneur Jésus-Christ de vivre 3 ans et demi avec des pécheurs. Quel bonheur indicible de vivre 30 ans avec Marie et Joseph. Rendons-nous compte de cela. Ça a été 30 ans de charité, de délicatesse. L'un se dérangeant pour l'autre, pour plaire à l'autre. Non pas d'un point de vue purement et uniquement humain, non. Ça, bien sûr, c'est présent, mais surtout spirituel, voire divin, bien que Saint-Joseph et Notre-Dame ne soient pas des divinités, bien évidemment, mais ils sont avec Dieu, et ils le savent. Quelle joie, quel bonheur, quelle charité. Ils ont vécu cette transfiguration à Nazareth. Que nos maisons, que nos foyers, que nos sociétés, que nos chapelles, que notre vie soit à l'image de la vie de Nazareth où une, entre guillemets, une transfiguration était toujours présente. Soyons transfigurés, mes bien chers frères. Vivons de cette transfiguration. Changeons-nous intérieurement. Et alors, nous changerons le prochain. C'est ça la conversion. La conversion ne consiste pas à dire « je vais convertir Pierre, Paul et Jacques ». Non, la conversion dit « je me convertis moi-même ». Et quand je me convertis moi-même, c'est un point important, ce n'est pas si facile. Nous nous connaissons avec nos fragilités, défaillances, fatigues, mauvaise volonté parfois, caprices et tant d'autres choses. Mais quoi qu'il en soit, nous voulons nous transfigurer intérieurement. Et par là même, sans nous en rendre compte, nous transfigurons le prochain par la charité qui nous anime. Parce que la charité, c'est une vertu extraordinaire. C'est Dieu lui-même. Dieu est charité. Et comme le soleil qui cherche toute fente dans une petite ouverture, même minime soit-elle, la charité, comme le soleil, rentre quelque part et transforme le lieu où elle vient. Alors, cette charité qui est en nous va nous transformer, bien évidemment, et transformer à notre insu le prochain. Car c'est le propre de la charité de se diffuser. Caritas Dei, diffus est in cordibus nostris per inhabitandem spiritus in nobis, dit saint Paul. La charité de Dieu a été diffusée dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui habite en nous. L'Esprit de Jésus, c'est son Esprit qui nous donne. Croyons-nous en cela? Est-ce que ce sont des paroles? Ce sont des paroles vaines si ce sont des mots qui flattent l'oreille. Il faut que ces paroles rentrent, pénètrent notre cœur et en sortent, non pas pour se disperser, mais pour diffuser la charité de Dieu. Sinon, on n'a rien compris à rien. Bon, je parle simplement, j'arrive d'Afrique, forcément, je parle un petit peu à l'africaine. Et je vous assure que quand j'étais là-bas, pendant quatre messes, ils ont écouté, tous yeux et oreilles sortis. Ils ne comprenaient peut-être rien à ce que je disais, bon, ça a été traduit en swahili, mais je voyais qu'ils comprenaient parce qu'ils ont réagi. Eh bien, des âmes simples, qui sont venues à la messe, qu'ils ne connaissaient pas, évidemment. Imaginez, dans le petit, c'est pas un village, 15 000 âmes, à Pinga, donc 15 000 personnes. Il y a des protestants, il y a des païens, mais forcément, pendant 30 ans, il n'y a pas eu de prêtre. Le prêtre a été assassiné en 94 et l'évêché de Goma n'a pas mis de prêtre pendant 30 ans. Imaginez, le saint curé d'Ars disait, laissez une paroisse 20 ans sans prêtre, on adore les bêtes. Alors 30 ans, c'est une bête et demie. Hein. C'est pas qu'une seule. Imaginez. Eh bien, ils sont tous venus à ma messe. Il y avait un seul homme qui avait connu la messe de Saint-Pie V. Un vieux, plus vieux que moi. Parce que j'ai appris qu'il était vieux. J'ai perdu quelques cheveux en plus. Et alors, vous voyez, je raconte des histoires. C'est la vieillesse qui raconte des histoires en général. Eh bien, je suis dans ce cadre-là. Bref, c'est un petit passage, mais un passage spirituel très beau. Un seul homme a connu la messe de Saint-Pie V. Il avait 82 ans. Il a 82 ans. Il était joyeux, heureux de retrouver cette messe. Personne n'avait connu cette messe. Eh bien, je vous assure, quel silence. Ils ne sont pas habitués au silence. Il y avait la messe du curé juste avant moi, et puis après ça, moi. Et alors, je suis arrivé trois quarts d'heure avant de ma messe, et les chants, le tam-tam, etc., et les hurlements, ça chante, c'est sûr. Ça. Quelle leçon aussi pour nos voix de musaraignes à moitié muettes. Ça chante en français de là-bas, et surtout en swahili, mais ça chante à plein poumon, ça c'est magnifique. Et bien donc, mais il n'y a pas un temps de répit, de repos dans ces messes nouvelles. Tout le temps, des chants. Pas un temps de silence. Avec la messe que je célébrais, ben, c'était tout à fait différent. J'ai dit aux jeunes curés, ils vont chanter à l'offertoire et à la fin de la messe. Offertoire, pas de tam-tam. À la fin de la messe, chant. J'ai pas dit tam-tam, mais le tam-tam est arrivé tout de suite. Bref, la messe était finie. Bon. Et alors, durant l'offertoire, qu'est-ce que c'était difficile pour moi de prier? Qu'est-ce que c'était difficile? J'ai dû prendre mon petit missel en devant mes yeux pour lire l'offertoire. Pourtant, je connais par cœur, mais je ne savais plus rien. J'ai tout oublié. Impossible. Quel tatamar. Mais en tout cas, ça chante. Ça, c'est sûr. Mais alors, autrement, silence. Complet. Un recueillement. Complet. Avant la messe, je leur ai dit, bien sûr, et le prêtre a traduit en swahili, comment communier? Qui peut communier? Il m'avait dit, oh, il n'y aura pas grand monde qui va communier, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont mariés, il faut tout rattraper, pas beaucoup de baptêmes, il faut tout rattraper. Pour ça, il fait vraiment bien, il est zélé. Il n'est pas du tout œcuméniste, pas du tout, parce que les protestants sont arrivés. Après que le prêtre soit parti, avec l'argent de la Suède, ils ont fait un grand temple, une salle paroissiale, etc. Donc, il voit bien les ravages du protestantisme. Donc, il est tout à fait opposé à ce protestantisme. Bon, il n'a pas reçu grand-chose, il faut bien le former, c'est sûr. Mais, en tout cas, il dit, il n'y aura pas beaucoup de communion. Mais j'ai précisé comment on communie sur la langue et à genoux. Ceux qui ne peuvent pas se mettront debout, parce que parfois l'arthrose, etc. Ils étaient tous à genoux, et tous sur la langue. On aurait dit une chapelle de tradis. Bon, ils n'ont pas de vin sur la tête, mais ça, peut-être faire des fichus, des bandeaux, et bon, ils n'avaient rien. Mais ça, ça vient plus tard, ça. C'est pas l'essentiel pour le départ, évidemment. Mais en tout cas, une piété, une foi. Je n'ai pas pu chanter le Kyrielle 8. Pourtant, j'aurais voulu. Ils ne le savent plus. Ils ont oublié. Comme Monseigneur Lefebvre a envoyé des missionnaires de la Fraternité Saint-Pie-X en 86 au Gabon, eh bien, les prêtres nous rapportaient ensuite qu'ils savaient encore le Kyrielle 8 à la gabonaise. Mais Kyrielle 8, ça ressemblait au Kyrielle 8. Ils savaient encore. Mais 86, il y a 40 ans de ça. Ils ne savent plus. Et en plus, comme je vous disais, il n'y a pas eu de prêtre pendant 30 ans. Donc ils ont été laissés à eux-mêmes. Ils ont dû prier quand même, parce qu'ils savent. Entre la chapelle et puis le pont que j'ai béni, donc un quart d'heure de marche, eh bien, les femmes chantaient. Il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes ne vont pas à la messe. Ils font autre chose, j'en parlerai. Et dans beaucoup de femmes qui viennent à la messe, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, beaucoup d'enfants, et ils chantaient, elles chantaient. Et je demande au curé qui était à côté de moi, mais qu'est-ce qu'ils chantent? Ben, je comprends rien, évidemment. Et il me répond, elles chantent l'Litanie de la Sainte Vierge, avec des couplets. Par cœur, pendant un quart d'heure. Par cœur. Il n'y a pas de feuilles. Ils ne savent pas lire. Enfin, ça savent lire, mais pas tous. Ils savent par cœur, donc ils n'ont pas oublié. Pas oublié. C'est important. Donc, ils ont gardé une foi avec la Sainte Vierge. J'entendais bien Maria. Voilà, Maman Maria. Donc, prions pour que ces âmes aussi, voyez-vous, soient transfigurées. Prions pour que des missionnaires, des prêtres, le monde meurt faute de prêtres. Il faut des prêtres. C'est important, mes bien chers frères. Donc, voilà, je ne comptais pas vous en parler, mais c'est plus fort que moi. Puis votre visage me demande tellement de choses que je vois bien que j'aurais fait une erreur grave en ne vous en parlant pas ce matin. Donc j'ai aucun remords pour votre plus grande joie et aussi pour votre transfiguration intérieure et aussi de ces âmes pauvres, très délaissées pendant des années. Et c'est une petite partie, toute petite partie d'une province que j'ai pu voir en Centrafrique, au Congo, au sud de l'Équateur. Mais prions pour ces âmes. Et puis s'il y a des missionnaires, eh bien, je les accompagnerai. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.